Europe 1. C'est arrivé demain, on se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour François Pupponi.
Bonjour.
Député du Val d'Oise, ex-PS, vous avez rendu votre carte après la dernière présidentielle. 55 ans passés à Sarcelles, dont 20 ans comme maire, banlieue nord, 15 km de Paris, ville dominée par un très grand ensemble, comme on disait jadis. Mais la réputation de Sarcelles, vous le rappelez au début de votre livre, Les Émirats de la République, sa réputation c'était de faire cohabiter plutôt bien des Français d'origine, des Juifs rapatriés d'Afrique du Nord, des chrétiens d'Orient et des familles immigrées du Maghreb et d'Afrique noire, lesquelles ne portaient pas leur religion musulmane en bandoulière. Quand est-ce que ça a commencé à se détraquer ?
C'est début des années 2010, et puis le basculement, c'est la manifestation antisémite de 2014.
Juillet 2014,
là où il y a la haine du juif qui est exprimée dans la rue, avec un début de pogrom, puisque des magasins ont été brûlés, la ville a été mise à sac. C'est là où on a vraiment compris que les choses avaient complètement changé, et que la cohabitation pacifique entre toutes ces communautés, qui continue aujourd'hui, était aujourd'hui l'objet d'une attaque d'un certain nombre de réseaux qui voulaient prendre possession de la ville et du pouvoir, et qui n'étaient pas dans une logique de respect mutuel.
Vous écrivez qu'ils ne sont pas nombreux, ces militants islamistes, 100 à 200, pas plus, moins de 5% de la communauté de culture musulmane, mais qui harcèlent et terrorisent la totalité d'entre elles et font vivre un enfer à 60 000 habitants.
Oui, parce qu'ils sont présents tous les jours, ils infiltrent tout le champ économique, éducatif, social, culturel, et on sent que la pression est en train de monter et que l'ensemble des acteurs, y compris de la communauté musulmane de Sarcelles, l'ensemble est inquiet parce qu'ils se disent, mais voilà, c'est pas ce qu'on veut, nous. Donc ils s'y opposent pour l'instant. Il y a des villes où malheureusement ils ne s'y opposent plus parce qu'ils ont pris le pouvoir, et ils nous disent, mais on est tétanisés par ce qui se passe, aidez-nous.
Vous racontez les commerçants qui déménagent, le départ du dernier boucher charcutier européen du marché du Grand Ensemble, sous la pression de militants radicaux ?
Alors, lui, il a quitté d'abord le Grand Ensemble, où il était historiquement le boucher du marché.
Du marché.
Et puis, régulièrement, des gens venaient dans son étal, crachaient sur le porc, ont même frappé sa femme, lui ont cassé le doigt en lui retournant le doigt. Voilà, et donc, à un moment, il a vendu son étal, il s'était après installé, ensuite il a quitté carrément la ville. Mais oui, à un moment, il considérait qu'il ne pouvait plus vendre du porc sur le marché, parce que la pression était trop forte, les insultes étaient systématiques.
La tentative de prise de contrôle de la MJC, ce que vous racontez est assez édifiant, avec des adhésions en masse, un entrisme, une tentative de passage en force dans les réunions de dirigeants. Les parents invités à retirer leurs enfants de l'école pour suivre un enseignement à domicile.
Oui, ça, le basculement, moi je l'ai vécu et vraiment compris lorsqu'il y a eu tout le débat sur la théorie du genre. On voyait que ça montait dans les quartiers en disant c'est scandaleux, on veut confier nos enfants à des homosexuels, on veut en faire devenir des pédophiles, bref, tout ce qui se disait à l'époque sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai organisé une réunion publique avec les parents d'élèves pour discuter avec eux. Et là, c'est principalement des femmes de la communauté musulmane qui sont venues, des jeunes, structurés, éduqués, diplômés. Et le discours, c'était « mais votre école ne s'occupe pas de nos enfants ». Et pendant la réunion, une femme a pris la parole en disant « écoutez, nous, on a des écoles, confiez-nous vos enfants, vous verrez qu'on s'en occupera mieux ». Et là, on a vu petit à petit des parents sortir leurs enfants de l'école publique, ce qui est légal, et confier ensuite, alors là, ce qui est moins légal, soit des écoles hors contrat, ils avaient le droit, soit des associations en le faisant officieusement. Et c'est plusieurs dizaines, on est presque à 70-80 parents d'enfants qui sont ainsi sortis de l'école publique et confiés soit à des écoles privées hors contrat, soit à des associations qui s'en occupent la journée.
Et alors, ce qui frappe dans votre livre, c'est l'inertie des pouvoirs publics. À chaque fois que vous les alertez, le préfet du Val d'Oise, le procureur de la République, le rectorat, presque à chaque fois, on vous dit « ah ben non, on ne peut rien faire ».
Oui, c'est souvent ce qu'on me répond. Je prends l'exemple, il y a deux écoles, c'est celles qui sont proches des réseaux salafistes. Une qui s'est mise hors contrat et qui est contrôlée, et puis une autre, on voit des enfants rentrer le matin et sortir le soir. Ça fait globalement 10 ans que je l'ai signalé. L'éducation nationale m'a répondu que comme ce n'était pas une école déclarée, pour eux ce n'était pas une école. Et puis, alors les services de renseignement vont voir ce qui se passe.
Donc on ne peut pas fermer une école qui n'en est pas une.
Ben, globalement, l'éducation nationale me dit « c'est pas mon problème, ce n'est pas une école ». Donc comme ce n'est pas une école, c'est pas à m'en occuper. Les services de renseignement surveillent, regardent, et en fait, on voit bien que parfois l'État n'arrive, et souvent l'État en tout cas, n'arrive pas à prendre la décision. Souvent, le ministre de l'Intérieur revendique l'expulsion d'imams ou la fermeture d'écoles, mais on sent que c'est très symbolique pour dire on fait quelque chose, mais que dans les faits, localement, l'appareil d'État a quand même du mal à avoir une vraie stratégie et une vraie politique de lutte contre ces réseaux-là.
Résultat, vous l'écrivez dans votre livre, on peut réunir des dizaines d'enfants tous les jours pour les endoctriner sans que personne dans l'administration française n'y trouve à redire. François Pupponi, vous fustigez longuement les islamo-gauchistes ou ce que vous appelez la gauche niqab qui fait la courte échelle aux islamistes, notamment les fréristes qui ont développé une stratégie d'entrisme dans beaucoup de quartiers.
Oui, moi je l'ai vécu personnellement lors de la campagne des législatives, puisque je me suis retrouvé au deuxième tour contre Samy Deba, qui est le président fondateur du comité contre l'islamophobie en France.
Qu'il a quitté depuis.
Dont on dit qu'il serait proche, je mets les guillemets, parce que je n'ai pas encore envie de me retrouver au tribunal pour diffamation. Et donc, il serait proche des Frères musulmans. Et donc, au deuxième tour, il se retrouve contre moi. Et la candidate de la France insoumise appelle à me battre. Mmh. Et donc, à soutenir Samy Deba au deuxième tour. Et les assesseurs de la France insoumise du premier tour ont même tenu au deuxième tour des bureaux de vote pour Samy Deba.
Et demain, une mairie dirigée par des islamistes, oui. Donc, la ville, bah, il se trouve qu'il est candidat. Mais oui, on ne va pas développer son cas. Mais vous me dites, la mairie de Garges-lès-Gonesse pourrait basculer aux prochaines élections.
Oui, parce qu'au deuxième tour de la législative, je l'ai battu largement sur la circonscription, mais sur Garges-lès-Gonesse, il a fait 56% des voix au deuxième tour.
Mais s'il obtient une majorité, ça prouverait que son élection dépasse le vote communautaire.
C'est clair. Parce qu'en fait, il est capable de présenter un programme acceptable par tout le monde. Hein, la sécurité, la propreté, la rénovation. Mais on sait très bien que derrière, il est avec certains réseaux, et que sa vision de la France, c'est quand même d'essayer d'imposer une manière d'un islam relativement rigoriste et de faire en sorte que la France accepte un certain nombre de règles. C'est le principe des Frères musulmans un peu partout dans le monde. Et donc, ce n'est pas propre à notre pays, à ses banlieues. Mais là, on voit bien que les choses sont en train de se mettre en place.
Mais c'est un islam qui reste très minoritaire chez les musulmans de France, comme on dit, ou même à Sarcelles.
Oui, il est extrêmement minoritaire. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène générationnel. Les détenteurs de cet islam-là sont jeunes, souvent diplômés, formés, militants, financés, ou bien qu'ils ont des moyens, qu'ils sont capables de faire des campagnes de qualité avec des moyens importants. Et c'est eux qui sont en train d'importer. Alors que les détenteurs d'un islam respectueux des règles de la République, qui ne posent aucune difficulté, la quasi-totalité des musulmans de ma circonscription, et c'est le cas en France, ne posent aucune difficulté.
Et qui ne se revendiquent pas en premier lieu comme musulmans.
Absolument. Ceux-là sont plus âgés. Et donc on voit bien qu'est en train de se produire un basculement et que si on n'y prend pas garde, ce sont les détenteurs de l'islam-là qui petit à petit seront majoritaires.
Alors vous en appelez au président de la République. Le gouvernement, écrivez-vous, ne semble pas avoir les idées claires ni avoir pris la mesure du danger. Le JDD de ce matin nous apprend qu'Emmanuel Macron cherche un plan. Que devrait-il faire en priorité?
Mais d'abord, il faut qu'on... je pense qu'il le sait, que c'est un des sujets de préoccupation des Français. Les musulmans de France demandent à la République de se prononcer sur sa place dans notre pays. Voilà. On l'a dit aux juifs au début du 19e siècle, au Concordat, on l'a dit aux catholiques en 1905. Là, il faut qu'on parle aux musulmans, et les musulmans le revendiquent en disant « Voilà, nous existons, nous ne voulons plus nous cacher, nous voulons vivre notre foi, mais c'est quoi les règles? Comment on peut être accepté et vivre dans cette République ?» Et la République ne répond pas. Et puis deuxièmement, il y a d'autres Français qui ne connaissent pas la religion musulmane, avec une montée de l'islamophobie dans notre pays qui est insupportable et incroyable. Et donc là aussi, il faut dire aux Français, voilà, nous avons des concitoyens de confession musulmane, ils sont dans notre pays, ils sont Français, voilà les règles pour y vivre. Il y a des questions qui sont posées sur le port de voile, pas le port du voile, le financement des mosquées, bref, un certain nombre de revendications légitimes de la communauté musulmane, et il faut que la France y réponde. Et celui qui doit y répondre, c'est le président de la République.
Donc c'est d'abord un discours, une ligne qui soit fixée au plus haut niveau.
Et puis qu'on fixe des règles. Voilà, parce que les élus que nous sommes, moi le premier, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on pense pour devoir faire. Mais souvent, on est borderline. Moi, j'ai dit dans le livre, il y a des financements qui ont été accordés, que j'ai accordés, qui sont, je pense, incompatibles avec la loi de 1905. Et donc, il faut bien qu'on dise aux élus, voilà ce que vous avez le droit de faire. Et aux musulmans, voilà ce que vous avez le droit de faire. Et aux Français, qu'ils acceptent sans trop de difficultés la religion musulmane dans notre pays.
Merci beaucoup François Pupponi. Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue aux éditions du Cerf. Merci à vous.
Europe 1.
Louis Chédid est en pleine forme, il va sortir un nouvel album, 11 chansons dont il nous parle en avant-première. A tout de suite.